Jean Genet, L'art de la fugue. Mise en pièce. Nejma Bouakra, Angélique Thibault.
Un jeune écrivain m'a raconté avoir vu dans un jardin public 5 ou 6 gamins jouant à la guerre. Divisés en 2 troupes, ils s'apprêtaient à l'attaque. La nuit, disait-il, allait venir. Mais il était midi dans le ciel. Ils décidèrent donc que l'un d'eux serait la nuit. Le plus jeune et le plus frêle, devenu élémentaire, fut alors le maître des combats. Il était l'heure, le moment, l'inéluctable. De très loin, paraît-il, il venait avec le calme d'un cycle, mais alourdi par la tristesse et la pompe crépusculaire. À mesure de son approche, les autres, les hommes, devenaient nerveux, inquiets. Mais l'enfant, à leur gré, venait trop tôt. Il était en avance sur lui-même. D'un commun accord, les troupes et les chefs décidèrent de supprimer la nuit, qui redevint soldat d'un camp.
Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est qu'il est à la fois dans la scène et à l'extérieur de la scène.
Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce texte, c'est le petit théâtre qui se crée, qui est un théâtre dont tout le monde est dupe et dont personne n'est dupe.
Olivier Neveu.
C'est-à-dire qu'on confie à quelqu'un la responsabilité d'être la nuit, et il va être la nuit. Et il y a cette phrase magnifique, il arrive trop tôt, il était en avance sur lui-même. Il est trop bien la nuit, il est trop bien la nuit à midi, l'ombre. Et que cet assentiment de tous fait que tout le monde est effrayé et qu'il faut rompre immédiatement l'illusion. Et je trouve que quelque chose se dit l'habileté des métamorphoses chez Genet. Il suffit d'une décision et d'un mot, de dire « je suis la nuit ». Cet enfant qui joue la nuit et qui ne joue plus la nuit parce qu'il a trop bien joué la nuit.
Il y a encore autre chose que je voudrais vous dire. J'ai su très vite, dès l'âge de 14-15 ans à peu près, que je ne pourrais être que vagabond ou voleur. Un mauvais voleur, bien sûr, mais enfin voleur. Ma seule réussite dans le monde social était pour être de cet ordre, si vous voulez, contrôleur d'autobus ou peut-être être boucher ou une chose comme ça. Et comme cette sorte de réussite me faisait horreur, je crois que je me suis entraîné très jeune, à avoir des émotions telles qu'elles ne pourraient me mener que vers l'écriture. Écrire, c'est peut-être ce qui vous reste quand on est chassé du domaine de la parole donnée.
Audience du tribunal militaire de Marseille. Le soldat de première classe Jean Genet, régiment d'infanterie coloniale du Maroc, a été déclaré déserteur. Examen du psychiatre militaire. L'inculpé, beau parleur, aime manier la mystification, qui sait s'il ne se mystifie pas lui-même. Dès son jeune âge, ses traits de caractère sont accusés. Il n'est bien que seul pour se promener à l'aventure et rêver à des exploits imaginaires dont il sera le protagoniste et le seul bénéficiaire. Sa première révélation sexuelle se place vers ses 12 ans, nous dit-il, dans un champ de trèfle, un camarade l'initie. Sitôt perverti, Il n'aime mais n'ose lui dire le boucher du village. Instabilité dans le vice. Où qu'il soit, il est emporté par son imagination hallucinante qui lui montre le chemin des évasions. Conclusion, schizoïde, fugueur, amoral.
L'art de la fugue. Partir, se détacher. Abdelataya.
Je crois que c'est une stratégie de survie innée. C'est pas quelque chose auquel on pense d'abord, mais les circonstances, la vie, ce que les autres décident pour nous, en tout cas pour moi, à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de brutalement partir, essayer de trouver dans un espace loin, mais en même temps pas si loin que ça, des endroits où on peut, je sais pas, peut-être réinventer les choses, ou peut-être se retrouver soi-même.
S'ils ont fait des vols, petits ou grands, des larcins, petits ou grands, des fugues, des vagabondages, ce qu'on fait quand on a 15 ans et qu'on en prend pour 3 mois ou 6 mois, c'est que la société ne vous convient pas.
L'abandon dans lequel on nous installe, dans lequel on installe les pauvres, et malheureusement, ce sont toujours les pauvres qui scoltinent tout ce que les autres ne veulent pas résoudre dans la société, dans un pays, dans un groupe social, etc. Et quand le cœur sec devient la norme, c'est quelque chose de très, très, très dur. Je ne sais pas comment dire. Le non-amour, le non-regard qu'on nous jette, parce que c'est vraiment un non-regard qu'on nous jette, parfois on va ailleurs pour le chercher, le trouver. Du coup, on croit que le retour à un état plus naturel, plus sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire sortir de toute cette construction de la société et du monde, va nous apporter la solution. L'appel. Et cet appel peut être très, 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 très dangereux, d'autant plus qu'il y a beaucoup de loups affamés, de crocodiles sans cœur, et des violeurs, des plus grands violeurs que ceux qu'on côtoie tous les jours.
J'étais très touchée par ce passage où il dit que
Mélina Balcazar.
Il restera fidèle à cette image de lui, mendiant, ayant faim, finalement d'un dénuement, mais physique. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, le froid.
Et cette faim-là, elle le poursuit, elle poursuit aussi Divine.
Rose. Le ciel est rose. Dans une petite ville où les matins dorés, roses ou blafards, des clochards à l'âme qu'aller voir on croirait naïve, de poupées, s'abordent avec des gestes que l'on dirait fraternels. Ils viennent de se lever d'un banc, des allées où il dormait, d'un banc de la place d'armes, ou de naître d'une pelouse du jardin public. Il se confie des secrets qui concernent les asiles, les prisons, la maraude et la maréchaussée. Le laitier les dérange à peine. Pendant quelques jours, je fus aussi des leurs. Je me nourris alors de quelques croutons mêlés de cheveux trouvés dans les poubelles.
Là, il va faire une espèce de traversée,
Albert,
mais
Duchy,
en mendiant,
auteur,
de l'Europe, de l'Est.
Directeur littéraire de l'Institut
prend
Mémoire
le bateau
de l'édition contemporaine.
Pour fuir, donc il arrive en Italie, puis comme il a des papiers qui ne sont pas très en règle, qu'il a traficoté, il se fait arrêter à chaque fois. Il débarque en Albanie, on l'expulse d'Albanie, il arrive en Tchécoslovaquie. Là, il est pris en charge par la Ligue des droits de l'homme à qui il s'adresse. On est quand même peu avant la guerre. En Tchécoslovaquie, il y a encore tous les Allemands qui fuient, qui essayent de se mettre à l'abri. Et il est pris en charge par une famille juive qui l'héberge. On le charge d'un message secret parce qu'il traverse l'Allemagne pour un officier allemand qui est contre Hitler, qui lutte contre la contre la mainmise par le nazisme de l'Allemagne. Il lui confie ce message, cet officier qui deviendra général va être pendu ensuite par Hitler au moment de la révolte des généraux. Et donc Genet continue son périple, il traverse l'Allemagne hitlérienne, il trouve que ce n'est pas un bon pays pour voler parce que le mal règne sur l'Allemagne et on ne commet pas le mal dans le mal. Il dit « je vole à vide » alors qu'il préfère rentrer en France pour devenir un vrai voleur. Voilà.
Et c'est un être qui m'a beaucoup intrigué parce que...
Le comédien Jean Marais, compagnon de Jean Cocteau.
Merveilleux parce que Jean Genet écrivait, mais il vivait de vol. Et Jean Cocteau lui a dit « Écoute, tu es un grand poète, mais tu es un très mauvais voleur, puisque tu te fais prendre tout le temps. Il faut plus voler, non pas par morale, mais parce que tu fais ça très mal. Et écrire !» Et comme Jean Genet disait « Mais avec quoi je vivrais ?» Jean Cocteau lui a dit « Eh bien, je vais demander à mon secrétaire de devenir éditeur et on va éditer ton livre Notre-Dame des Fleurs. » Et à ce moment-là, Paul Maurienne vendait les livres de Jean Genet en cachette. C'est-à-dire que dans sa librairie, il n'y avait que deux ou trois livres de Jean Genet et tous les autres livres étaient dans un garage rue Montpensier parce qu'on avait peur d'une descente de police. Mais on était sous le coup de la loi si
parce que c'était
on avait
jugé,
été pris avec des livres soi-disant, mettons, érotiques.
La nuit, quand une voiture sur la route, l'éclairant tout à coup, met pour lui-même et pour elle en évidence ses pauvres loques. Il faut peut-être descendre encore dans la honte. Je recevais des crachats dans ma bouche distendue que la fatigue n'arrivait pas à refermer. Nous étions au centre du parc le plus fleuri de France. J'attendis des roses. Je priais Dieu de fléchir un peu son attention, de faire un faux mouvement, afin que les enfants ne me haïssent plus, m'aimassent. Ils auraient continué ce jeu, mais avec des mains pleines de fleurs.
Le personnage de Divine, c'est qui est quand même un travesti flamboyant qui traverse tout le roman de Notre-Dame des Fleurs. Je n'ai prête son enfance à Divine. Les souvenirs de ses fugues où il erre dans les villes. Il dit d'ailleurs qu'il met sur ses épaules à la fois ses haillons et ses habits de prince. Et donc on a un personnage qui est à la fois splendide et misérable. Et Divine, c'est au fond le personnage par lequel Genet fait son entrée dans la littérature. Et c'est Genet lui-même qui se projette en lui.
Rose.
Être les filles de la honte. La honte produit sa propre lumière.
Notre-Dame des Fleurs est un texte
Agnès Vanhoen
qui circule dans un premier temps sous le manteau.
Elles arrivaient, provoquant tout type de
rose. Cocteau adorait ce texte.
Parfumé,
Cocteau a même dit que c'était une bombe littéraire qu'il aurait aimé écrire.
Le ciel est
Elle
déjà rose.
Elle n'était plus le bocage de papier crépelé fleurissant aux terrasses des cafés.
C'est un texte qui...
Elles étaient de la misère.
Qui parlait de la marge.
Bariolée. D'où viennent les noms de guerre des tantes?
Avec ses figures travesties,
Première
Divine, Mimosa,
Notre-Dame des Fleurs, Prince Monseigneur, ne sont pas venus au hasard. Il existe entre eux une parenté, une odeur d'encens et de cierges qui fond, et j'ai quelquefois l'impression de les avoir recueillis parmi les fleurs artificielles ou naturelles dans la chapelle de la Vierge Marie.
Et toute cette bande de copines qui
qui étaient entre filles et garçons et qui faisaient leur vie et leur nuit à Montmartre. Et c'est un texte de la marge qui s'adresse peut-être à des gens en marge. De la marge, il est passé à la lumière. Et Genet ne cesse d'écrire entre la boue et le ciel. Et effectivement, les Vespasiennes des Carolines qui rendent hommage à ces toilettes disparues à Barcelone dans le journal du voleur, et le ciel que les bonnes regardent avant de tuer madame, c'est de cet espace sacré et désacralisé que Genet écrit.
Rose, le ciel est rose. Rose.
Dame des fleurs, lorsqu'il évoque Divine, il dit Divine, née secret, comme si c'était son nom de jeune fille. Son premier livre, c'est Notre-Dame des fleurs, Miracle de la rose. On a comme ça une floraison de son nom à travers l'ensemble de son œuvre. Le premier mot des paravents, c'est rose.
Le ciel est rose.
Le ciel rose, le ciel est rose. Lorsque le premier éditeur de Genet lui propose de supprimer son nom de l'édition pour qu'il n'encourt pas des risques de poursuite, Genet est absolument offusqué. Il dit « Mais je risque ma vie, moi, en écrivant mes livres, mais l'éditeur, il a peur de me rejoindre en prison. » Et il refuse absolument qu'on touche à son nom parce qu'au fond, il n'a rien d'autre. Hein. Il a dû attendre l'âge de 15 ans pour savoir comment son nom s'écrivait, tout simplement, c'est-à-dire sa première condamnation. Il ne savait pas très bien s'il fallait mettre un accent circonflexe sur le « e ». Son baptême dans le village d'Aligny mentionne Genet, G-E-N-E-S-T. Donc il y a une incertitude qu'il a pendant toute son enfance sur son propre nom. Genet est quelqu'un qui, de toute sa vie, n'a jamais rencontré quelqu'un qui était parent à lui. La première fois qu'il entend le nom de sa mère, c'est dans un procès.
D'après Jean Genet, il a été mis à l'assistance publique. Bon, puis il s'est évadé, il est allé en maison de correction, puis il s'est évadé, il a été mis en prison. Et il aurait fait toute son éducation, qui est immense, il est d'une culture, il sait tout, Jean Genet. Il est en volant des livres, en les lisant et en les revendant après. Mais moi, je crois que c'est une légende qui s'est donnée. C'est pas possible. Comment voulez-vous ?
Il y a quelques témoignages qui montrent même que Genet transportait avec lui des manuscrits, même lorsqu'il était vagabond en Tchécoslovaquie. Et il y a des choses, mais il y a un moment où l'écriture prend. C'est-à-dire où le livre brusquement se dessine, c'est 1942. En 1942, c'est l'année la plus noire de sa vie parce qu'il est en prison, il encourt la prison à perpétuité pour récidive de vol, il est à son 13e ou 14e vol, il est sur le point de disparaître. Et il se trouve que c'est aussi l'année la plus noire de l'histoire de France. Et c'est quand même inouï parce que entre 1942 et 1947, c'est-à-dire en l'espace de 5 ans, Genet qui n'a rien publié, qui est rien, il va publier à la fois 5 romans, des romans chacun importants. Il y a encore 4 ou 5 pièces qui sont de cette période. C'est-à-dire qu'il y a comme un phénomène irruptif dans l'œuvre de Genet.
1943, il risque la déportation, Jean Genet ?
Oui, il risque la déportation parce qu'il a multirécidivé et qu'il n'a pas de domicile.
Emmanuel Lambert,
donc,
auteur.
Il est dans un camp d'internement en attente d'être déporté. Et c'est vrai qu'il va être sauvé par les relations de son premier bienfaiteur, qui est Jean Cocteau, qui a lu Le condamné à mort et qui en a été tout à fait bouleversé.
Sur un poème de Jean Genet, Le condamné à mort.
Hélène Martin.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.
Et tout d'abord, un extrait de Le condamné à mort de Jean Genet, dit par Mouloudji.
Le vent qui roule un cœur sur le pavé des cours. Un ange qui sanglote accroché dans un arbre. La colonne d'azur qu'entortille le marbre font ouvrir dans ma nuit des portes de secours.
Se trouve au camp des Tourelles, qui est effectivement un camp de triage pour la déportation. C'est là d'ailleurs que passe Dora Bruder, l'héroïne du roman de Modiano. Et les enfants juifs, mais aussi des vagabonds, des prisonniers politiques, il est effectivement dans cet espace. Alors la seule chose qui va jouer un rôle important quand même dans sa vie, c'est que lorsque la guerre s'achève, Genet voit les prisonniers de droit commun qui sont condamnés à rester dans la prison alors que les prisonniers politiques sont libérés. Il ne comprend pas la chose et pour lui c'est le même combat. Les droits communs et les politiques, c'est le même combat. Et c'est une des ambiguïtés d'ailleurs qui va nourrir et féconder l'ensemble de son œuvre.
Le tribunal. Les policiers, fauteurs d'anarchisme, se retirèrent en faisant au président une courbette jolie. Dehors, la neige tombait. Cela se devinait au mouvement des mains dans la salle, redressant le col des par-dessus. Le temps était couvert. La mort s'avançait à pas de loup sur la neige.
C'est une œuvre où Genet se débat en permanence. Je veux dire, on a à la fois un auteur qui est entre deux mondes, mais aussi qui utilise la langue de façon comme un immense violoniste utilise son violon, son instrument. Et la langue, on sait aussi ce que c'est que la langue. La langue, c'est la loi, c'est la grammaire. Le premier entretien que Genet donne dans une toute petite revue, il est encore totalement inconnu, il y a quelqu'un qui lui pose quelques questions et qui lui demande quel est le livre qui pour vous a été le plus important. Et Genet ne dit pas Dostoïevski, Dante, Shakespeare. Il dit le livre de grammaire.
La grammaire comme rigueur.
Oui, il est en prison et il n'a qu'une seule chose, c'est la langue. Et là, il l'utilise comme une arme et c'est par elle qu'il va sortir de prison. Et en même temps, il sait bien que la langue, c'est plus qu'un instrument, c'est quelque chose qui vous construit en même temps qu'on l'utilise. C'est un écrivain, c'est une œuvre qui est produite par quelqu'un qui est dans un état d'urgence. Et ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il a le sentiment que il est en train d'écrire et qu'il est peut-être le seul à le faire pour dire l'envers du monde. C'est-à-dire, Genet est le seul écrivain qui ne provient de nulle part. Je veux dire qu'il n'est même pas, il ne vient pas d'un milieu populaire, il ne vient pas d'un milieu ouvrier, il ne vient pas d'un milieu agricole, il vient de nulle part. C'est-à-dire d'une frange sociale qui n'appartient à aucune catégorie. Et il va faire son œuvre en pensant qu'il est le seul à pouvoir dire ce qu'est le monde des exclus, ce qu'est le monde des petits délinquants, des enfants placés en colonie pénitentiaire, ça compte énormément pour lui, l'envers du monde. Et donc ça, c'est aussi faire effraction à l'intérieur du monde littéraire, donner libre cours à cette parole qu'on n'entend pas et qui vient d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il commence à écrire en prison, c'est qu'il a besoin d'être mis hors de ce monde pour pouvoir l'exprimer. Et et au fond, c'est la prison qui lui donne son lieu d'expression, son lieu d'énonciation capitale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Genet n'est plus en prison, il n'arrive plus à écrire.
272.
Un coup de dé.
67 mois. Non.
Jamais.
67 fois 8.
Combien même lancé dans 7, des circonstances éternelles.
295 heures divisé par.
Du fond d'un naufrage.
30. 67 soit multiplié par 12. Plus les 52 semaines, ça fait. 18 piges.
Sous une inclinaison plane désespérément d'elle.
Entre 1937 et 1944, Jean Genet effectue 13 séjours en prison. Premier flagrant délit, vol de mouchoir à la Samaritaine, puis une rafle. Il est poursuivi par le bruit des imperméables caoutchoutés des inspecteurs. Il détient le passeport d'un Allemand anti-nazi, falsifié avec tant de maladresse qu'on s'en est aperçu. Et un pistolet de poche. De la prison de la Santé, il est déféré à la maison centrale de Fresnes. Il écrit à Jean Cocteau « Je n'ai plus de papier ». De préférence, un cahier d'écolier, épais. Et évoque un amant, Guy. Que te dire de lui, ma séparation me fait l'idéaliser. Il prend sa place dans mon œuvre. C'est ma façon de posséder les gens que j'aime. Je les fixe, je les mure vivants dans un palais de phrases. On entend crier les pierres. Le condamné à mort, son poème, est sans doute composé à Fresnes en septembre 1942. Puis vient Miracle de la Rose, Haute Surveillance, tous écrits par un homme tenaillé par la faim, s'enroulant dans des phrases hallucinatoires. Il se brouille avec Cocteau et surgit Jean-Paul Sartre. À la demande de Gaston Gallimard, Sartre rédige une préface destinée à légitimer la publication de Jean Genet. Elle fera 500 pages, un tome, le premier des éditions complètes de Jean Genet. Saint Genet, comédien et martyr, je cite, « Un phare éblouissant le transperce de ses feux, le regard de l'autre, le pouvoir de nommer, celui de Sartre aussi. »
Et c'est pas inintéressant parce que Genet doit finalement d'avoir pu continuer à vivre à Cocteau et il doit sa nouvelle vie à Sartre. Et c'est aussi un écrivain, je crois, qui va se sortir de ses dettes ou va essayer de se sortir de ses dettes, ce qui est compliqué parce qu'on ne sait jamais à quel moment une dette s'arrête. D'où sans doute d'ailleurs la dépression argué par Genet à la suite de l'écriture du Saint-Genet par Sartre. C'est sans doute vrai hein, que de se voir mise à nu, comme il le dit lui-même, ça a été d'une très grande violence. Mais il y a aussi quelque chose qui était sans doute tout aussi violent, c'est qu'au fond, Genet était devenu une sorte de coqueluche du tout Paris parce qu'il avait été créé par deux de ses plus éminents représentants qui étaient Cocteau pour les poètes et Sartre pour les intellectuels. Et ça vous met dans une position dont il faut pouvoir se tirer.
J'ai toujours senti une espèce de dialogue de sourds entre Genet et Sartre.
Bertrand Ogilvy, philosophe.
Que Genet souligne parfois d'ailleurs, quand il dit lui-même à plusieurs reprises que quand il l'écoute, finalement, ça l'ennuie ou s'endort. Quand il le lit, au bout de trois pages, il laisse tomber.
Jean Genet reconnaît à Sartre le fait d'être un immense interprète. Et d'ailleurs, il lui parle de longues heures. Et par exemple, Sartre insiste sur une chose, c'est que
Quand il vole, il n'envie pas l'objet, mais il vole parce qu'il souhaite être lui aussi propriétaire. Puisqu'il n'est pas fils d'eux, il souhaite aussi être dans cette lignée-là qui permet de dire qu'on a quelque chose à soi.
Oui, ça c'est une position winnicottienne en quelque sorte. Les voleurs sont toujours ceux qui essayent de récupérer un statut qu'ils n'ont pas eu, à savoir d'être effectivement dans le cercle de la propriété, d'avoir un propre d'eux. C'est ce que Winnicott analyse. Bon, mais je pense que Sartre ne connaissait pas Winnicott, mais enfin oui, il a raison sur ce point, bien sûr. Oui.
Il y a la phrase de Sartre qui dit « il convoite l'état de propriétaire quand il vole ». Qu'on ne voit pas l'objet, moi je dirais qu'il convoite aussi l'état de voleur. Pourquoi le convoite-t-il ? Eh bien parce qu'il y a une pensée de la solitude et de la liberté chez Genet qui passe par la trahison.
Emmanuel Lambert, est-ce que vous partagez le regard de Sartre sur Jean Genet ? Quelle est cette littérature ? Est-ce que c'est une littérature qui choisit délibérément le mal ?
De fait, c'est une entreprise de prédation intellectuelle absolument hallucinante, mais elle a le mérite de dire ce qu'elle fait, elle se cache pas derrière des vertus qu'elle n'aurait pas, et donc dans le Saint-Genet, Sartre déplie à peu près tout ce qui peut déplier des livres de Genet. Or, les livres de Genet, comme on le sait, parlent de sa vie, et il en fait non pas un portrait, hein, mais il en fait vraiment une analyse. Qu'il rapporte à ses propres théories sur la liberté, sur le fait que nous sommes des glaises, que nous ne tient qu'à nous que de nous modeler en allant à l'encontre de ce qu'on a fait de nous. Enfin voilà, de tout ça, il ressort effectivement un Genet écrivain, fasciné par le mal, donc une créature quasiment baudelairienne au fond, et moi je trouve que ça reste quand même une lecture d'une pertinence extraordinaire.
Ce n'est pas pour rien que Sartre dit Saint Genet, comédien et martyr. Donc, il y a bien sûr comédien, mais il y a la question du salut. Je dirais que Genet, il ne veut pas d'un salut bon marché, c'est-à-dire d'un salut qui ne rachète pas le mal. Il n'y a pas que le saint, il faut que le criminel y soit inclus. Donc, il y a quand même, non pas un rachat, parce que ce serait peut-être un terme trop chrétien d'une certaine façon, mais il y a quelque chose qui essaie d'être sauvé dans l'œuvre de Genet. Ce qui essaie d'être sauvé, c'est le lien avec, au fond, ceux qui sont considérés comme les derniers des hommes, les grands criminels, les assassins, mais aussi, on peut le dire, les miliciens, tous ceux qui font l'objet d'une réprobation sociale unanime ou d'un vomissement social. Tous ceux qui sont les représentants du mal absolu, cette espèce de reste de la société. Bon, je crois que Genet écrit au nom des coupables, c'est pas tellement les innocents qu'il défend. Eux, il sait qu'ils sont défendus. Mais il défend ce que personne ne défend.
Là, là-bas.
Madame est bonne.
Là, là-bas.
Madame est belle. Madame est douce, mais nous ne sommes pas des ingrates et tous les soirs, dans notre mansarde, comme l'a ordonné Madame, nous prions pour elle. Jamais nous n'élevons la voix, et devant elle, nous n'osons même pas nous tutoyer.
Madame nous adore. Elle nous aime comme ses fauteuils, comme son bidet. Plutôt comme le siège en faïence rose de ses latrines.
Ainsi, avec sa bonté, Madame nous empoisonne, car Madame est bonne, Madame est belle, Madame est douce. J'en ai assez. Assez d'être l'araignée, le fourreau de parapluie, la religieuse sordide et sans Dieu, sans famille. J'en ai assez d'avoir un fourneau comme hôtel. Je suis la pimbèche, la putride.
Madame est bonne.
Madame est bonne. Madame est bonne. Madame nous adore.
Et nous pas nous aimer.
Lance la balle.
La crasse n'aime pas la crasse. C'est facile d'être bonne et souriante et douce quand on est belle et riche. Mais être bonne quand on est une bonne.
Jean Genet, ça n'oublie des crimes les plus retentissants. Il a lu Détective et dit avoir croisé l'assassin Pilorge, ce qui est faux. Il s'approprie aussi le crime des sœurs Papin. mais Jean Genet au travail en train d'écrire Les Bonnes lit Jacques Lacan dans la revue Le Minotaure et réfléchit à la question de la paranoïa. C'est ça, Jean Genet au travail ?
Oui, des sœurs Papin. Alors oui, effectivement, il le dément de manière en partie malhonnête, parce que il est évident que l'inspiration a à voir avec ce fait divers. Mais c'est intéressant qu'il le démente, parce que c'est une indication pour lire la pièce. C'est-à-dire, je crois que c'est un petit théâtre mental. C'est quelqu'un qui travaille sur la paranoïa, qui est peut-être d'ailleurs en partie la sienne. Il travaille sur les représentations donc qui engendrent d'autres représentations, qui font qu'il n'y a aucune solidité de la représentation, aucun moment où ça s'arrête. Ça n'arrête pas de proliférer comme ça. Et ça a à voir avec la paranoïa, et ça a à voir avec une espèce de mise en crise du regard. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qui me regarde? Est-ce que je suis en train de regarder ce qui me regarde? Bon. Ça s'empare de questions dont on voit bien que psychiquement et politiquement, elles sont extrêmement précises, précieuses et importantes. La question de la persécution, la question de la domination, la question de la vengeance, la question de la haine et de la haine de classe. Mais oui, il n'écrit pas des dissertations. C'est-à-dire que l'œuvre résiste constamment à ces gros mots qu'on peut poser dessus, parce qu'il y a encore une fois, à chaque signe se voit soutirer son sens, quoi. Mais ça a à voir avec le théâtre de Genet, hein. Derrière les mots, il y a rien. Derrière les mots, il y a d'autres mots. Derrière l'apparence, il y a rien. Il y a du vide. Derrière le signe, il n'y a pas un sens. Il y en a beaucoup, ou pas.
Carmen, c'est moi qui ai décidé de nommer mon établissement une maison d'illusion. Mais je n'en suis que la directrice.
Maribel, dans le balcon.
Et chacun, quand il sonne, entre et apporte son scénario parfaitement réglé.
Mise en scène, Peter Brook.
Moi, je n'ai plus qu'à louer la salle et à fournir les accessoires, les acteurs et les actrices.
1975.
Ma maison, je l'ai détachée de terre, tu vois ce que je veux dire? Je lui ai donné depuis longtemps le coup d'envoi et elle vole. J'ai coupé les amarres, tout s'envole. Lustre, miroir, tapis, piano, cariatide, tout s'envole. Et mes salons, mes célèbres salons. Le salon d'idées foin, tendu de scènes rustiques. Le salon des tortures, éclaboussé de sang et de larmes. Le salon salle du trône, drapé de velours fleurdelisé. Le salon des miroirs, le salon d'apparat, le salon des jets d'eau parfumée, le salon urinoir, le salon clair de lune, tout s'envole. Ah, j'oubliais le salon des mendiants, des clochards, où la crasse et la misère sont magnifiées. J'oubliais le plus beau de tous, parure définitive, couronne de l'édifice, si sa construction est un jour achevée. Je parle du salon funéraire orné d'urnes de marbre, le salon de la mort solennelle, le tombeau. Salon, filles, cristaux, dentelles, balcon, tout fout le camp, s'élève et m'emporte.
Le balcon, c'est un bordel, hein. Par exemple, il y a des clients qui veulent se déguiser en juge, d'autres qui veulent se déguiser en pape, enfin, bon, en évêque, je crois. Toujours est-il que ce sont les figures, on va dire, de l'exercice de la domination. C'est le jeu du pouvoir et le pouvoir, c'est toujours une idée du pouvoir. Et ça, c'est quand même très fort politiquement. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'exercice du pouvoir, mais c'est d'abord l'idée qu'on s'en fait. C'est d'abord une image. Et tout l'enjeu de la pièce, c'est qu'évidemment, à un moment donné, comme il y a des forces révolutionnaires qui poussent fort à l'extérieur pour renverser le pouvoir et que ça fonctionne, comment on fait quand il y a un vide? Comment on fait? Eh bien, on le remplace par une illusion. Et donc, d'un seul coup, il faut trouver des gens à la hauteur pour incarner ces figures du pouvoir. Et ce que dit finalement Genet à travers la pièce, c'est que le pouvoir, c'est toujours une idée du pouvoir. Qu'est-ce que ça génère comme fantasme? Qu'est-ce que ça génère comme fausse réalité? Qu'est-ce que ça provoque comme éclat, au fond, chez les gens? Et Genet démonte tout ça. Il démonte l'écho de la chose. Mais la chose en elle-même, il s'en fout. C'est pas un écrivain réaliste. C'est un poète qui fait du théâtre.
Madame, madame.
Entrez, entrez, délivrez-nous du mal. Alléluia. Vous descendez mes cataractes.
Madame, madame.
Je neige encore sur vos campagnes.
Dans quelques jours sera créée à Paris, au théâtre de Lutèce, la nouvelle pièce de M. Jean Genet, Les Nègres, par la troupe des Griots, sous la conduite de Roger Blin. M. Genet est un auteur qui s'ébroue volontiers comme Artaud ou Malaparte dans le scandale.
Jolie mouette poliment, que l'amour laisse-toi torturer.
La compagnie des griots, mise en scène des nègres.
Et alors
1959.
Je ne sais pas, c'est...
Roger Blin.
Ce qui me réjouit le plus, enfin ce que j'aime le plus dans le théâtre de Genet, c'est son insolence. C'est une jubilation. C'est un mot qui ne peut servir qu'à lui. N'est-ce pas? Jubilation de l'enfant puni qui se venge. Jubilation du nègre, révolté, mais plein d'humour. Genet n'a pas vu la pièce à Paris, il l'a vue à Londres, je l'ai montée en anglais après, et il m'a fait l'amitié d'être content.
Accra, capitale de la Gold Coast, est une véritable Babylone noire. Ici se retrouvent des hommes venus de toute l'Afrique occidentale, de Nigeria, du Niger, de Haute-Volta, du Soudan, pour vivre la grande aventure des villes africaines.
Jean Genet a vu le film « Les maîtres fous » de l'ethnologue Jean Rouche. Dans une clairière de forêt vierge, je cite, « des nègres font les blancs ». L'un est le gouverneur, l'autre le général, tel autre la femme du docteur, tel autre enfin la locomotive qui, bien qu'étant un engin mécanique, est supposé appartenir à juste titre poétique, à la race blanche.
Hygiene Boys, tueur de moustiques.
Jean Genet destine sa pièce « Les Nègres » à un public blanc. Il dira de lui « En naissant blanc et en étant contre les blancs, j'ai joué sur tous les tableaux à la fois. Je suis ravi quand les blancs ont mal et je suis couvert par le pouvoir blanc puisque moi aussi, j'ai l'épiderme blanc, les yeux bleus, verts et gris. »
Timber Boys, marchand de bois de charpente.
C'est un théâtre qui se donne un destinataire, le blanc, et qui décide « Je suis là pour le blesser. » Et le blanc, c'est aussi Genet. De fait, il le dit, le fait d'être blanc et d'écrire contre les blancs, c'est intéressant, ça a mis la pagaille en moi. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on ne donnera pas d'armes à la blancheur pour s'en sortir une fois de plus. Quand on soutient la lutte des militants noirs nord-américains, on ne fait pas un théâtre chaleureux et de la réconciliation. On ne vient pas émanciper les noirs, ce serait évidemment obscène. Mais on ne vient pas plus émanciper les blancs, on ne vient pas faire assaut de vertu sur un plateau. On va aller chercher la situation la plus douloureuse et la plus extrême, et puis on va jouer avec ça, puisque ce sont des personnes noires qui portent des masques blancs, qui jouent un tribunal, qui vont condamner des personnes noires, bon, dans une espèce comme ça de renversement permanent.
Funambule. Une paillette d'or est un disque minuscule en métal doré, percé d'un trou. Mince et légère, elle peut flotter sur l'eau. Il en reste quelquefois une ou deux accrochées dans les boucles d'un acrobate.
Tu entres et tu es seul. Apparemment, car Dieu est là. Il vient de je ne sais où, et peut-être que tu l'as porté en entrant, ou la solitude le suscite, c'est pareil. C'est pour lui que tu chasses ton image. Tu danses, le visage bouclé, le geste précis, l'attitude juste, sévère et pâle, danse, et si tu le pouvais, les yeux fermés.
C'est quelque de la chute. De la chute.
Oui. Oui.
Plusieurs
c'est ça qui peut-être me serre le cœur, cette image de quelqu'un qui, comme Abdallah, qui est donc français d'origine étrangère, et même en rencontrant quelqu'un comme Jean Genet, il chute et il vit l'abandon. Ça me fait étrange que voilà, que...
Abdallah Taïa, auteur.
L'ombre de Jean Genet domine encore la vie et le suicide d'Abdallah. Puisqu'on dit Abdallah s'est suicidé, Jean Genet... C'est arrêté d'écrire.
Le fil te portera mieux, plus sûrement qu'une route. Je ne serai pas surpris quand tu marches par terre, que tu tombes et te fasses une entorse. La mort dont je te parle, n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Celui qui dansera sera mort. Décidé à toutes les beautés, capable de toutes, plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber. Mais veille de mourir avant d'apparaître et qu'un mort danse sur le fil.
Allah al-Basidi. طيبين العالم راهم لابسين راهم دايرين راهم لابسين القفطان راهم دايرين المكان ايوا هادشي راهم هادشي راهم دايرين
Mais j'avais lu Funambule.
Antoine D'Agata, photographe.
Et ça m'avait troublé à quel point la mort est présente de manière.
Il incite son amant tant aimé à être au plus près du vertige et de la mort, oui.
Je parlais de Dieu. Parce que c'est compliqué. En fait, il me semble qu'il y avait des très belles définitions en creux de Dieu dans le Funambule, justement, sur le. Comme quelque chose, la somme des possibilités, des actions, des gestes possibles, enfin quelque chose comme ça, qui je trouve une manière très 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 efficace de définir c'est ce qu'est Dieu, qui est plus un inconnu qu'un mais un inconnu qui habite, enfin qui dans lequel on subsiste. Mais c'est ça que je trouvais beau dans sa façon de parler de Dieu, c'est qu'en fait, il n'y avait rien de spirituel dans la chose. C'était un rapport vraiment à notre ignorance et à la condition qui est la nôtre. J'allais dire qui nous est faite, mais qui nous est faite, ça impliquerait que quelqu'un est en train de la faire. Donc il y avait vraiment un rapport très clair et très. C'est un rapport au vide, en fait. Il se vide. Je crois qu'il parle de solitude aussi. Donc, c'est cette solitude dans le néant et de fait, ce vide, et c'est possible, et c'est doute, et cette ignorance elle-même devient, prend une forme divine.
Il va de soi que je n'ai pas voulu dire qu'un acrobate qui opère à 8 ou 10 mètres du sol doivent s'en remettre à Dieu, à la Vierge, les funambules, et qu'ils prient et se signent avant d'entrer en piste car la mort est au chapiteau. Comme au poète, je parlais à l'artiste seul. Danserais-tu à 1 mètre au-dessus du tapis, mon injonction serait la même. Il s'agit, tu l'as compris, de la solitude mortelle, de cette région désespérée et éclatante où opère l'artiste.
Mais Abdallah est né dans un cirque, il travaille, il est funambule, et Genet fait pour lui un numéro de funambulisme qui est formidable. Il dessine son costume, il trouve la musique adéquate, il l'accompagne de cirque en cirque. Et puis un jour, il se passe cette chose, c'est que Abdallah tombe du fil, il se casse le genou, il remonte, il retombe une seconde fois, et cette fois-ci, c'est fini. Je n'essaie de trouver d'autres... le faire monter à cheval, des numéros de voltige à cheval, mais je n'ai d'une certaine façon, à partir du moment où il ne travaille plus avec Abdallah, se désintéresse un peu de lui...
Abdallah qui va attendre de longues heures Jean Genet quand il sera handicapé.
Et Jean Genet ne vient pas. Il ne vient pas, il l'a abandonné, il l'a délaissé. Il lui a loué, je crois, un petit studio. Et quand il comprend qu'il ne reviendra pas... D'ailleurs, comment il s'est suicidé, c'est très, très symbolique. Il a mis tous les livres de Jean Genet autour de lui, autour de son petit lit, et il s'est ouvert les veines. Et on a trouvé... On l'a trouvé mort avec les livres de Jean Genet imbibés du sang d'Abdallah. C'est-à-dire l'image est claire. Il y a là l'image de Jean Genet comme un grand soleil qui avale. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'à chaque fois, on ne présentait cet Abdallah d'une manière un peu romantique et que même sa mort tragique, ultra tragique, était devenu un mythe qui empêchait de voir, mais qui était cet Abdallah?
J'ai connu Abdallah. Je l'ai amené en Grèce. Il était déserteur. Il était demi-allemand et demi-algérien, donc demi-français, du même coup, puisque son père était algérien, donc français. Et il devait faire son service militaire pendant la guerre d'Algérie. Et je l'ai fait déserter. Et on est venu en Grèce, où il a appris à danser sur le fil. Mais Abdallah fait partie de ma vie tellement intime que je préfère ne pas en parler devant la caméra. Je ne veux pas en parler plus.
Je cherchais quelqu'un qui avait connu Abdallah, le fameux funambule, le grand amour de Jean Genet. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Parce que j'ai croisé plusieurs fois la fille de Monique Lange, Carole Achache, qui a très très bien connu Jean Genet. Et elle a été abîmée par le milieu culturel que fréquentait sa mère Monique Lange et Juan Goytisolo. Juan Goytisolo était le mari de l'écrivaine Monique Lange, qui était elle-même l'assistante de Jean Genet aux éditions Gallimard. C'est Carole Achache, quand je l'ai rencontrée, qui, elle, à mes yeux, a rendu devant moi justice à Abdallah en parlant de qu'on n'avait pas le droit de faire de quelqu'un ça.
Little Blue Girl, Mona Achache.
Genet m'invite à déjeuner en tête à tête près de son hôtel. Je suis fière. Monique aussi. Elle est si contente qu'il s'intéresse à moi. Nous sommes les deux êtres qu'elle aime le plus au monde. Même Juan n'a pas cette place-là. Fréquenter Genet est la meilleure chose qui puisse m'arriver en ce moment. Je ne peux que tirer profit de sa singularité. Elle se dit que c'est merveilleux. C'est une chance inouïe. Et c'est vrai, je sens qu'il a du plaisir à me découvrir. Il se marre avec moi. Il m'apporte une façon insolite de réfléchir. Il m'aide à confirmer ma révolte et à ne pas être comme les autres. Il est joyeux en ma présence. J'ai des dons que Monique n'a pas. Il lui redonne le goût de vivre. Je suis bien plus marrant qu'elle. Il y a en lui des moments enfantins aussi puérils que les miens.
Et un soir, à ta très grande bibliothèque, tu t'es pendue.
Contre Jean Genet et porter une accusation d'abus. Depuis, cet auteur, de toutes parts traversé par son œuvre, qui se joue des logiques perverses, se trouve accusé de perversité lui-même. Cet abus n'est pas celui de Jean Genet, mais de son jeune amant, avec une toute jeune fille, Carole Achache, fille de son éditrice, Monique Lange. Jean Genet n'a jamais été accusé de pédophilie de son vivant. Mona Achache, fille de Carole Achache, décide de rendre justice à sa mère, victime donc de l'amant de Jean Genet et selon elle de la complicité de Jean Genet, autorisant la levée des interdits. Nous sommes quelques années avant mai 68 et 10 ans plus tard, une tribune, puis une pétition signée dans Le Monde par 80 intellectuels français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et Françoise Dolteau, plaident pour décriminaliser les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. Le consentement des mineurs est au cœur des débats. pourtant, comme il peut nous sembler retors, ce tour de force libéral, faire du consentement des mineurs, l'argument offrant aux adultes, toute licence vis-à-vis des adolescents, voire des enfants. Dans Little Blue Girl, Mona Hachache interroge la violence des mères, laissant leurs filles à la merci de leur propre fascination pour des hommes de lettres. Une question demeure, pourquoi faire de Jean Genet ce pivot de relations débordantes ? Le fut-il ? Et puis Jean Genet, auteur de La Dépossession, que ferait-il de cette accusation-là portée en ricochet ? Il ne serait peut-être pas surpris de se voir accusé de sale type.
C'est là peut-être où on se rejoint, c'est-à-dire que j'ai du mal à parler. Je ne sais pas comment le dire, mais souvent je fais des images qui sont ambiguës et qui peuvent être comprises ou vues comme inacceptables. Et ces images, elles sont tout le contraire de ce qu'elles disent. Elles sont presque des contresens volontaires. Mais ma matière, c'est cette violence. Et cette violence, pour la montrer, je n'ai pas à la traduire ou à l'introduire. Je la jette au visage du spectateur.
À chaque accusation portée contre moi, fût-elle injuste du fond du cœur, je répondrais oui. Avais-je prononcé ce mot en moi-même, je sentais le besoin de devenir ce qu'on m'avait accusé d'être.
Oui, il y a un jeu avec la limite. Un jeu avec la limite qui consiste justement à se placer sur la limite.
Bertrand Ogilvie.
Dans une position de bascule.
Philosophe.
De telle façon qu'en étant d'un côté et de l'autre à la fois, celui qui est accusé, celui qui assume, celui qui revendique même des crimes imaginaires, etc., il fait apparaître la présence saisissante, indubitable de la limite elle-même, comme étant finalement la vie comme norme. Au fond, la grande question que Genet s'est posée peut-être toute sa vie, c'est que faire du fait que la vie est imposée comme norme, alors qu'en réalité, elle est autre chose, elle est aussi déchet. Elle est grossièreté, elle est perte, elle est violence, elle est incernable. Et la norme veut sans cesse la ramener à une univocité que Genet ne cesse de rejeter sous une forme grotesque, violente, brutale, insupportable à voir et à saisir parce que c'est la norme elle-même mais vue à l'envers, qui devient du coup monstrueuse. Toute l'œuvre de Genet, surtout son théâtre, a cette ambivalence permanente et ce jeu avec les codes et cette passion d'assumer la mauvaise place. Voilà.
Non, non.
Genet.
Plantagenet.
Genet, je veux dire.
Si je veux dire Plantagenet, moi, ça te dérange?
Avec Abdellah Taïa, Mélina Balcazar, Emmanuel Lambert, Olivier Neveu, Albert Dichy, Antoine D'Agata, Bertrand Ogilvie. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, bruitage Aurélien Bianco, documentation musicale Antoine Villoz. Équipe technique, Emmanuel Couturier, Benjamin Thuot et Nicolas Mathias. Prise de son, Hélène Langlois. Mixage, Bruno Mourlan. Documentation, Annelise Signoret. Zachary Bayri, Thierry Ancis, Lise, Jean Genet. Une grande traversée de Nejma Bouakra, réalisée par Angélique Thibault. Sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. The Jean Genie lives on his back. The Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Jean Genie, let yourself go. We'll be right back.
love.